Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Catherine Solano, sexologue, répond à toutes vos questions. Et nous allons plus précisément parler des liens entre la sexualité et les sentiments. Parce qu'un rapport sexuel, ce n'est pas seulement, et heureusement d'ailleurs, le frottement de deux peaux l'une contre l'autre. C'est aussi une rencontre avec toutes sortes de sentiments à partager. De l'amour, heureusement, de la tendresse, de l'attirance, du désir, du plaisir. Mais parfois, les sentiments liés à la sexualité sont aussi négatifs ou difficiles. Quand il s'agit de douleur, de colère, de jalousie, de tristesse, de déception ou de peur. Et des peurs, il y en a, hein. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé, de ne pas plaire. Alors, comment activer les sentiments bénéfiques, diminuer les sentiments douloureux pour aller vers une sexualité la plus épanouissante possible? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et appelez-nous pour en parler au 33 1 84 22 75 75. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci d'être là exceptionnellement un mercredi à la place d'un jeudi. Les auditeurs sont très très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On va tout de suite prendre Chris qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Chris, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute Chris.
Ok. Je disais que jusque j'ai vécu deux relations qui sont finies de la même manière. On s'aimait bien au début, la vie sexuelle était très active. Mais au bout d'un certain temps, on s'est séparés tout simplement parce que, à un certain moment, les sentiments sont devenus un peu morts.
Mmh. Oui.
Voilà, ma préoccupation était vraiment de savoir, parce que la première fois, c'est arrivé, la deuxième fois encore, c'est encore arrivé, c'est qu'au bout d'un an, je ressentais plus la même chose. Et je me suis posé des questions de savoir, est-ce que c'était pas la place qu'on a trop accordée à la sexualité? Et donc la question c'est de savoir quelle place donner à la sexualité dans un couple pour équilibrer les choses, ou même de savoir si la sexualité est perçue de manière un peu différente chez les femmes.
Et parce que justement, pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous sentiez de déséquilibré? Vous sentiez qu'elle avait plus d'envie que vous, par exemple?
Ah oui, voilà le vrai problème, parce qu'au début c'était régulier. Et puis après, j'ai compris que chaque fois qu'on se voyait, ça devrait forcément finir au sexe. Et moi, bien que j'aime le sexe, je n'étais pas forcément pour le faire tout le temps, à chaque fois qu'on se voyait. Et voilà, donc chez moi, ça a commencé par éteindre un peu la flamme, pardon. Mm-hmm. Et voilà, j'ai commencé par prendre un peu de distance pour pouvoir calmer les choses. Mais ça n'a pas forcément été perçu comme un retrait stratégique pour pouvoir garder la flamme, mais plutôt comme si je voyais une autre personne. Donc il y a des sentiments de jalousie qui ont succédé, et puis je n'ai pas forcément pu tenir, j'ai préféré arrêter.
Docteur Catherine Solano.
Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, parce que c'est vraiment très intéressant. Et donc je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que en fait, effectivement, la sexualité, c'est très important dans un couple. Alors, moi je suis sexologue, je vais pas dire le contraire, mais si c'est trop important, ça peut être néfaste. Je m'explique. Quand on commence à rencontrer quelqu'un, on fait une rencontre, mais je parle pas de sexualité, juste on se connaît, on fait connaissance, on se parle. C'est pas toujours bien d'avoir une sexualité très vite, comme maintenant ça arrive parfois. Pourquoi? Parce que souvent, si par exemple on fait l'amour le premier soir ou dès qu'on se connaît, on va pas construire autre chose à côté. Et donc, même si la sexualité est très bien et super, et surtout si elle est super bien, parfois on construit pas autre chose. Et puis alors forcément, à un moment, la sexualité va aller un petit peu moins bien, ou il y en a un qui a un peu moins envie, et puis ça diminue, et puis on s'aperçoit qu'il y a rien entre nous. Donc je pense vraiment que la meilleure manière de faire un couple qui fonctionne, c'est de pas commencer trop vite la sexualité, mais de construire autre chose, de faire des choses ensemble, de parler, de discuter de plein de choses, de sortir, de faire du sport, j'en sais rien, ça dépend des goûts qu'on a. Et ce qui fait que on sera un couple beaucoup plus solide, qui va reposer sur d'autres pieds que la sexualité. Et donc, ce qui est arrivé, j'ai l'impression, dans votre couple, c'est qu'à partir du moment où vous avez senti que vous n'aviez surtout, il y avait essentiellement ça dans votre relation, vous, ça vous suffisait pas, vous aviez envie d'une relation plus profonde, plus large, je dirais, qui soit sur d'autres plans. Et donc, vous vous êtes mis un peu en retrait. Elle s'est sentie moins aimée, parce que comme l'amour passait par la sexualité, et donc elle a demandé plus de sexualité, peut-être parce qu'elle connaissait pas d'autres manières de relier le couple. Et le problème, il vient pas de vous, il vient plutôt d'elle, c'est que peut-être de vous aussi, dans le sens où il faut savoir expliquer, dire j'ai pas besoin que de sexe, j'ai aussi besoin d'une partenaire, d'une compagne, de quelqu'un avec qui échanger sur mes soucis et mes joies. Et donc c'est là où effectivement la place de la sexualité, c'est important. Alors c'est pas gênant si on fait beaucoup l'amour et qu'on fait beaucoup d'autres choses aussi, mais si on fait beaucoup l'amour tout le temps et jamais autre chose, là c'est très embêtant.
Mais ce qui est intéressant là dans la situation que raconte Chris, c'est que c'est un homme qui dit mais finalement j'en ai pas besoin tout le temps, et une femme qui a l'air plus en demande. Or on a souvent l'image inverse.
Oui. Alors c'est très intéressant parce qu'on a souvent l'image inverse, et ce qui est bizarre c'est que, alors dans votre cas moi je peux pas dire, mais des fois les femmes veulent beaucoup faire l'amour, pas forcément parce qu'elles en ont envie tout le temps, mais parce qu'elles se disent les hommes c'est ce qu'ils veulent. Or c'est faux. Bah bien sûr, comme vous dites Chris, moi j'aime bien faire l'amour et la plupart des hommes aiment ça et c'est normal, c'est la vie. Mais, et les femmes aussi, mais ils n'ont pas envie que de ça. Je me rappelle un jeune homme qui me disait, c'était pas un patient, c'était un monsieur qui vendait des légumes au marché. Il me disait, moi vous savez, je trouve que les filles maintenant elles font trop vite l'amour. Moi je cherche une compagne, une femme pour avoir des enfants. Je cherche pas d'avoir une professionnelle dans mon lit qui sait faire toute Kama Sutra. Donc si vous voulez, et dans notre société, dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression que les hommes veulent du sexe, alors ça les intéresse, mais c'est pas que des sexes sur pattes, hein, c'est pas, heureusement, c'est des partenaires qui s'intéressent à plein de choses, et vous êtes un homme tout à fait normal en fait.
Chris, est-ce que ça vous aide tout ce que vous a dit le docteur Solano?
Oui, écoutez, ce que je voudrais rappeler au fait, c'est que j'ai voulu en discuter, comme elle a dit tout à l'heure, et la première fois c'était vraiment difficile à aborder, parce que ce serait un peu comme insulter la sexualité de ma partenaire, comme genre lui dire je ne veux plus en faire parce qu'on en fait de trop, ou c'est comme presque la traiter de néphomane, un truc comme ça. Donc c'était très délicat pour moi.
Ah, oui.
Je savais pas comment aborder le sujet avec elle.
Ah, oui. Mais justement, ce qu'il aurait fallu dire, c'est lui dire, tu sais, tu es une personne que j'aime énormément, et j'ai pas envie que de sexe avec toi, j'ai envie aussi de faire plein d'autres choses, de construire et tout ça. Pas de lui dire on fait trop l'amour, mais lui dire j'aime beaucoup faire l'amour avec toi, mais j'ai envie aussi d'autres choses. Tu es pas juste une partenaire sexuelle, tu es plus que ça, donc c'est plutôt valorisant. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le tourner.
D'accord. Merci beaucoup en tout cas Chris, et bon courage pour votre vie sentimentale. On a Rolf qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Rolf, bonjour.
Bonjour Claire.
Alors, oui, alors on est un peu dans le sujet avec votre question, mais pas tout à fait. C'est que on devait répondre à votre question il y a 10 jours dans Priorité Santé. Vous aviez eu le temps de poser votre question, mais le docteur Solano n'avait pas eu le temps de répondre, et on avait dit qu'on y répondrait cette fois-ci. Alors, expliquez-nous, rappelez-nous déjà la situation dans laquelle vous êtes.
Ok, merci. Le problème, c'est que ma question est sur la fertilité. Ma petite amie sécrète beaucoup de glaire cervicale pendant les rapports sexuels. Alors, cela me gêne. Ça ne me permet pas de sentir vraiment l'élasticité de son corps. Hein, je parle du vagin. Et en fait, ma question, c'est de savoir, est-ce que le fait de sécréter beaucoup de glaire cervicale pendant les rapports sexuels peut avoir un impact sur la fertilité?
Alors, docteur Catherine Solano.
Alors déjà, pendant les rapports sexuels, sous l'effet de l'excitation, une femme va fabriquer une lubrification sexuelle. Mais c'est pas de la glaire cervicale. C'est un liquide qui est lié à l'excitation. On appelle ça une transsudation. C'est comme si l'intérieur du vagin transpirait. Donc, quand il y en a beaucoup, c'est bon signe. C'est un peu comme si un homme disait j'ai une érection très très forte. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de désir et d'excitation. Donc ça, c'est bon signe. Alors, si ça vous gêne parce que ça vous permet d'avoir moins de sensations parce que ça glisse trop, ce qu'il faut faire, c'est lui demander de s'entraîner à serrer son vagin autour de votre pénis pendant les rapports sexuels. Parce que c'est pas tellement une question de lubrification, ça serait plus une question de pression exercée sur la surface du pénis. Vous voyez? Lui dire, est-ce que tu saurais serrer? Donc, voilà, ça c'est la première, c'est la réponse à une partie de votre question.
Et si cette lubrification n'est pas de la glaire cervicale, alors c'est quoi la glaire cervicale?
Alors la glaire cervicale, c'est un fluide qui est fabriqué par le col de l'utérus, c'est-à-dire tout au fond du vagin. C'est pas du tout une transpiration de la surface du vagin, c'est tout au fond dans le col de l'utérus. C'est pour ça que ça s'appelle cervicale, ça veut dire ça vient du col, et c'est aussi appelé le mucus cervical. C'est une substance qui sert à la fertilité. Plus une femme a de glaire cervicale, plus elle a a des chances d'être fertile, parce que la glaire cervicale, c'est, on appelle ça un milieu d'accueil pour les spermatozoïdes. Donc c'est nourrissant pour les spermatozoïdes, ça leur permet de mûrir suffisamment pour être très bien fécondant. Donc plus une femme a de glaire cervicale, plus elle sera bien fertile. Donc ça c'est pas du tout gênant pour la fertilité, bien au contraire.
Pour répondre à la question.
Et puis je vais rajouter un petit détail, c'est que beaucoup de femmes nous disent après un rapport sexuel le sperme coule à l'extérieur. Bon bah bienvenue au club, ça fait ça chez tout le monde et ça n'a jamais empêché d'avoir un bébé. Je le dis parce qu'il y a des couples qui se posent la question.
Et parce qu'il y en a suffisamment qui restent à l'intérieur et qui remontent, c'est
toujours
ça.
Toujours suffisamment.
Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Rolf pour votre question.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, le docteur Catherine Solano répond à toutes vos questions sur les liens entre sexualité et sentiments. On a Dieudonné qui nous appelle d'Ouvira en République démocratique du Congo. Dieudonné, bonjour. Dieudonné. Oui, Dieudonné, bonjour. Vous êtes en direct dans Priorité santé, on vous écoute.
Oui, moi.
Dieudonné, vous êtes en direct dans Priorité Santé. Il faut que vous parliez maintenant, si vous voulez que le docteur Solano réponde à votre question.
Oui, je disais, je vais donner ma façon en fait que je vis avec une fille.
Mm-hmm.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, et je vis.
Bon, Dieudonné, il y a à la fois un problème avec la ligne téléphonique. On va vous rappeler, on va essayer de voir avec vous pour que la ligne fonctionne mieux et que vous puissiez mieux intervenir. On a Jean-Claude qui nous appelle de Douala au Cameroun. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui. Okay, donc, ce que je disais, c'est que parfois j'ai le sentiment qu'il faut renégocier chaque fois. C'est comme si on s'est rencontrés la première fois.
Vous parlez de votre femme, là. Attendez, parce que nous, on vous prend en ligne en direct. Certes, vous avez eu Jeanne avant qui a sélectionné votre question, mais nous, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, si vous ne nous racontez pas et si vous ne racontez pas aux auditeurs, on ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Vous parlez de votre femme, c'est ça?
Voilà, oui, absolument. Uh-huh.
Voilà. Et alors, allez-y.
Oui, ce que je disais déjà, c'est d'abord l'indisponibilité. Cela veut dire que, bon, moi je résume ça par la règle des 5-5-5. Ça veut dire que, bon, bien, le cycle menstruel dure 5 jours, donc c'est 5 jours d'indisponibilité. Il y a 5 jours où elle a la maux de tête, et il y a 5 jours où, bon, elle est indisponible parce qu'elle a diverses frustrations, 5 jours de vécu à fatigue, il va rester 5 jours, et pendant ces 5 jours, ben, il faut en faire comment? Il faut négocier. Et pour négocier, ce n'est pas une question de plaisir, hein. Bon, elle ressent le plaisir, tout comme également je ressens le plaisir. Voilà, donc pendant ces 5 jours, il faut négocier. Et puis, négocier tout le temps.
Donc, alors, docteur Catherine Solano.
Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que votre femme, elle n'a jamais envie, il faut toujours que vous insistiez pour avoir un rapport sexuel, c'est ça finalement?
Oui, j'ai ce sentiment. Bon, bien, et après ça se passe bien, mais c'est toujours, il faut toujours négocier.
Alors, ce que je peux vous dire, moi qui suis une femme, c'est que pour avoir du désir, une femme a besoin de se sentir aimée. C'est-à-dire que si vous avez envie qu'elle ait du désir plus spontané, ou pas forcément du désir spontané, mais que quand vous avez envie, elle aussi, ça lui donne envie, il faut que vous lui montrez que vous l'aimez. Alors, c'est pas tellement de la négociation, vous voyez, c'est pas tellement du commerce, normalement, la sexualité, c'est plutôt comment lui donner envie. Donc, il faut que vous lui demandiez ce qui lui donne envie, d'abord, lui poser la question, et puis lui dire qu'elle est belle, que vous l'aimez, lui rendre des petits services, passer des petits moments avec elle, où vous la tenez par la main, lui dire qu'est-ce que tu sens bon, j'ai envie de te faire un bisou dans le cou sans que ça soit sexuel, qu'elle soit en état de réceptivité vis-à-vis de vous. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui sont ronchons toute la journée, qui sont pas marrants, et puis le soir ils disent moi j'ai envie, la femme elle leur dit moi non. Et c'est un peu toutes les femmes comme ça, vous voyez. Alors est-ce que vous la chouchoutez beaucoup?
Oui, oula, je pense que de ce côté-là, elle est gâtée. Hein, je la chuchote beaucoup. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais bon, peut-être c'est une question d'éducation, bon, qui fait que, bon, peut-être elle a des réserves par rapport à ça, je sais pas.
Et puis, il faut essayer d'en parler, j'imagine, docteur Solin.
Tout à fait. C'est, tous les deux, vous avez raison de dire c'est peut-être son éducation et peut-être qu'il faut en parler. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de lui demander est-ce que des fois tu as envie et tu n'oses pas me le dire. Parce que beaucoup de femmes vont dire oui, quelquefois j'ai envie, j'ose pas le dire. Et bah déjà de savoir ça, c'est intéressant parce qu'un homme se dit ouf quoi, je suis pas tout seul à demander.
Bon, merci en tout cas beaucoup Jean-Claude et bon courage à vous. On a Nafissatou qui nous appelle de Boisquet en Côte d'Ivoire. Nafissatou, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute Nafissatou.
Ok, bonjour Catherine, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Et puis, je suis jamais tombée amoureuse, j'ai pas de gars. Bon, je suis en convivialité, donc je me pose des questions. J'essaie de savoir si c'est possible ou si j'ai un problème.
Ah, et parce que qu'est-ce que vous disent vos amis, justement, sur cette question? Vous en parlez?
Oui, ils trouvent que c'est pas normal qu'à mon âge, je suis pas en couple, et que je ne sais pas, pardon, en couple, que
alors,
j'ai pas encore fait de rapport avec.
Alors, docteur Catherine Solano, Nafissatou qui a 21 ans, qui n'est pas encore tombée amoureuse et qui n'a pas eu encore de relation sexuelle avec un homme et ses amis lui disent que c'est pas normal. Qu'est-ce que vous dites?
Oui, je dis que justement, faut pas écouter vos amis parce que 21 ans, c'est très jeune. Et vous savez que dans la vie, il y a eu des études qui demandaient aux gens combien de fois, aux gens âgés, hein, je veux dire, combien de fois vous êtes tombé amoureux dans votre vie. C'était plutôt 3 fois pour les hommes et je crois que c'était 4 fois pour les femmes, un tout petit peu plus, mais c'est 3 ou 4 fois, donc c'est pas tous les jours qu'on tombe amoureux. Alors il y a des femmes ou des jeunes filles qui sont amoureuses tout le temps, mais en fait c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance ou de l'intérêt. Vous voyez, avoir un garçon et dire oh, il est beau, il me plairait, je suis amoureuse, mais c'est pas ça l'amour. Donc on n'a pas tous la même définition, et si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un dont vous vous sentez amoureux, ça n'arrive pas tous les jours, loin de là. Donc il faut pas écouter ce qu'on vous dit et vous dire que vous n'êtes pas normal. Et puis 21 ans, ne pas avoir eu son premier rapport sexuel à 21 ans, c'est tout à fait normal. Il y a plein de personnes qui ont leur premier rapport sexuel à 22, 23, 24, c'est pas du tout anormal. Il y en a aussi qui ont leur premier à 14 ans. C'est, à mon avis, c'est trop tôt, mais bon, ça existe aussi. Il n'y a pas d'obligation de se dire à 22 ans, il faut l'avoir fait, sinon on n'est pas normal.
Mais c'est pas toujours facile dans ces cas-là de résister à la pression des copines.
Non, c'est vrai que c'est pas facile de résister parce que, et puis en plus, plus on est jeune, plus on a envie d'être comme tout le monde. Après, on se dit, c'est pas grave, moi je suis différent. Moi, je peux vous dire qu'à 21 ans, j'avais pas non plus fait ma première fois et je me sentais tout à fait normale. Donc, bienvenue au club, hein, vous voyez?
Pas d'inquiétude, Nafissatou. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Et on a Emmanuel qui nous appelle de Ziguinchor au Sénégal. Emmanuel, bonjour. On a perdu Emmanuel. Alors, est-ce qu'on a Youssouf, est-ce qu'on a Youssouf qui nous appelle de Djamena au Tchad? Youssouf, bonjour.
Bonjour, Claire.
Nous vous écoutons, Youssouf. Vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Ok, moi, j'avais une amie qui est maintenant en études à l'extérieur du pays et il fait son des longues études, donc elle ne compte pas finir tôt. Et donc, là, je m'inquiète un peu. Avant son départ, c'est pour beaucoup de choses, mais j'essaie de me poser la question, est-ce qu'on va pouvoir finir jusqu'à bout?
Je vais me permettre de répéter votre question, Youssouf, parce que la ligne téléphonique est vraiment pas très bonne avec Djamena. Vous avez une petite amie qui est partie pour faire ses études en dehors du pays il y a 1 an. Vous êtes fidèle, mais c'est difficile de tenir dans le temps. Comment être un bon amant alors que sa partenaire est à des milliers de kilomètres de soi, et comment faire pour ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs en attendant? Docteur Solano.
Alors, ce qui est le plus important, il me semble, c'est de rester le plus proche possible. Alors maintenant, grâce à Dieu, on a le téléphone, on a Internet, on a, je sais plus comment ça s'appelle, où on peut se voir en caméra, là, je sais pas.
Skype,
etc. Et donc, on peut rester proche à condition de se contacter le plus souvent possible. C'était beaucoup plus difficile autrefois, où les gens partaient, ils pouvaient pas se téléphoner tellement ça coûtait cher.
Et le courrier mettait 15 jours à arriver.
Ouais, voilà. Donc c'est ça, de lui raconter le plus de choses possible, même lui dire c'est pas facile que tu sois pas là, etc. Et je voulais dire une chose aussi, c'est que si jamais vous craquiez une fois, vous avez une relation d'un soir ou quelque chose, pas trop vous culpabiliser non plus. Je vous incite pas du tout à le faire, hein. Mais si on se dit, il faut absolument que je réussisse, que je sois 100% parfait, c'est difficile.
C'est pas toujours facile. Merci beaucoup en tout cas Youssouf pour cette question. On se retrouve dans 3 minutes juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des liens entre sexualité et sentiments avec le docteur Catherine Solano, parce que la sexualité est d'autant plus belle et procure d'autant plus de plaisir que les sentiments sont partagés. Alors, si vous souhaitez participer, apporter un témoignage, poser des questions, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr, comme toujours, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Les auditeurs sont très nombreux à appeler Dr Solano pour vous poser des questions. On a Kevin qui nous appelle de République démocratique du Congo. Kevin, bonjour.
Oui, bonjour Claire et bonjour Dr Catherine.
On vous écoute, Kevin.
Oui, j'ai une question. Je vis avec mon amie et je fais tout ce qu'elle demande, mais elle ne prend jamais de plaisir. On s'entend bien, on ne se discute pas, mais moi, j'ai l'impression d'avoir tout fait de mon mieux. Je sais qu'on dit l'amour supporte et tout. Mais est-ce qu'il est pour tout se laisser dominer au lit? Sinon, que puis-je faire pour la satisfaire? C'est ça la question que j'avais.
Alors, docteur Catherine Solano.
Du coup, quand vous dites que votre amie n'a jamais de plaisir, vous voulez dire qu'elle a jamais d'orgasme ou qu'elle a vraiment pas du tout de plaisir à faire l'amour, que c'est pas agréable pour elle?
Oui, c'est depuis tout un mois qu'il me chauffe, mais j'ai constaté que c'est dans mon malaise.
Mais donc, la question du docteur Solano, c'est de savoir si c'est une question qu'elle n'a pas d'orgasme ou elle n'éprouve pas du tout de plaisir pendant la relation sexuelle.
Oui, c'est ça. Elle n'a pas d'orgasme, c'est ça.
Ah, d'accord.
Elle n'a pas d'orgasme.
Ok. Parce que, alors, il faut savoir que l'orgasme, ça dépend pas seulement de la qualité du partenaire. C'est-à-dire que même si vous faites tout ce que vous qu'elle vous demande, tout ce que vous pouvez, si elle a pas d'orgasme, c'est pas spécialement lié à vous. Ça peut être lié à elle, parce qu'il y a des femmes qui ont du mal à se laisser aller au plaisir jusqu'à l'orgasme. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut pas dire qu'elle est pas satisfaite. Surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « moi j'ai pas d'orgasme, mais j'adore faire l'amour, j'ai beaucoup de plaisir quand même ». Il faut voir que le plaisir et l'orgasme, c'est pas la même chose. Une femme peut donc avoir beaucoup de plaisir et elle a pas d'orgasme quand même. C'est dommage, on est d'accord, mais ça veut dire qu'elle aime quand même faire l'amour, elle a quand même du désir. Donc si c'est dans ce cas-là, c'est pas non plus si gênant. Ensuite, quand une femme n'a pas d'orgasme pendant les rapports sexuels, c'est assez souvent parce qu'on espère avoir un orgasme pendant la pénétration. Alors que beaucoup de femmes ont plus facilement des orgasmes par les caresses au niveau du clitoris. Donc si elle a jamais d'orgasme avec vous, l'idéal ça serait de vous entraîner, de lui dispenser des caresses au niveau du clitoris assez longtemps, le temps qu'il faut pour qu'elle ait un orgasme. Peut-être un jour ça va finir par venir, voyez.
Et l'important, toujours, c'est d'en parler ensemble.
Et l'important, c'est d'en parler, de lui demander est-ce qu'il y a des choses que tu oses pas me demander ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Est-ce que je devrais continuer plus longtemps à te faire des caresses, etc. Mais même en parlant, est-ce qu'on n'est pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas trop ce qui leur permettrait d'avoir un orgasme. Et je vais vous donner un exemple concret. C'est qu'une femme qui n'a jamais eu d'orgasme, quelquefois, il faut faire des caresses sur le clitoris pendant près d'une heure pour avoir un orgasme la première fois. Alors, les femmes, elles n'ont même pas l'idée de dire continue pendant une heure, et les hommes disent ça fait déjà 10 minutes que j'y suis, c'est long. Et en fait, c'est pas forcément long. Quelquefois, pour que le réflexe se mette en place, pour qu'il se déclenche, au début, il faut beaucoup de temps.
Merci beaucoup, en tout cas, Kevin, pour votre question. J'espère que les conseils du docteur Solano vont vous aider. On a retrouvé Dieudonné, qu'on avait tout à l'heure en ligne, qui nous appelle d'Ouvira, en République démocratique du Congo. Dieudonné, bonjour, on vous écoute.
Oui, Claire, comme j'ai parlé bien avant, moi j'ai une petite amie que nous vivons ensemble, ça fait longtemps que nous sommes. Et quand je lui parle des sentiments en général, tout va bien. Et aussi quand j'essaie d'évoquer le mot, la sexualité, et elle commence à se fâcher, on peut faire une semaine, deux semaines, sans qu'on se vaille. Alors quand je lui parle des clitoris, des vagins, de faire l'amour, alors, il s'est bloqué, il n'accepte pas. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je peux commencer à aborder bien les sujets. Et surtout, il avance ses arguments en disant que quand nous faisons l'amour avant mariage, moi je deviens
point puisse aller. Alors, je ne sais pas ce qui se passe.
Alors, surtout, elle vous avance, je vais répéter l'argument qu'elle vous avance. Elle dit que faire l'amour avant le mariage, ça diminue le plaisir sexuel et que vous deviendrez moins puissant au lit. Et vous vous demandez si c'est vrai ou si c'est sa façon de mentir.
Alors, c'est pas vrai du tout. Un homme qui a des rapports sexuels avant le mariage, il va, alors c'est un choix, mais après, il va pas devenir impuissant. Il aura des érections tout à fait normales, exactement comme un homme qui commence à faire l'amour au moment du mariage. Donc, de ce côté-là, alors, je dis pas que...
De ce côté-là, pas de problème.
De ce côté-là, pas de problème. Ensuite, ce que je trouve, donc, si j'ai bien compris, elle voudra faire l'amour que le jour où vous serez marié. Bon, c'est son choix, mais ce que je comprends mal, c'est pourquoi vous vivez ensemble.
Mais non, ils vivent pas vraiment ensemble, parce que ça peut passer des semaines sans voir. Vous vivez ensemble, Dieu donné ?
Non.
Ah, d'accord.
Mais
j'avais.
Oui, elle est bien.
D'accord. Alors donc, moi, quand vous racontez ça, que elle se fâche quand vous parlez de sexualité, l'impression que j'ai, c'est qu'elle a très peur de la sexualité, qu'elle doit avoir très peur. Donc, mon conseil, ça serait de lui parler le moins possible de sexualité. Puisqu'elle a très peur, il faut l'apprivoiser. Mais par contre, ça serait de lui dire, je suis ok pour pas faire l'amour avant le mariage. De toute façon, c'est ce qui se passe. Vous le faites pas puisqu'elle veut pas, donc vous pouvez pas la forcer, heureusement. Mais de lui faire des câlins qui vont de plus en plus loin, petit à petit, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, sans lui dire je vais caresser tes seins ou quoi, mais parce que si le mot sein la choque, mais lui dire je fais une petite caresse même par-dessus les vêtements, et petit à petit, pour parce que elle a des peurs, donc ça serait d'apprivoiser petit à petit son corps en lui disant je te respecte, si tu dis stop, je stop quoi, et parce que si vous voulez, moi je vois beaucoup de femmes qui veulent faire l'amour qu'après le mariage. Parce qu'elles ont peur et pas pour des motifs religieux. Enfin, elles disent que c'est des motifs religieux, mais des fois c'est la peur. Parce qu'une femme normale qui dit moi je veux la suivre, je ferai l'amour qu'après le mariage, elle se dit on fera l'amour qu'après le mariage, mais elle en a envie. Elle se dit c'est dur parce que je t'aime et j'ai envie, mais non, je veux tenir le coup. Elle dit pas je me fâche si tu m'en parles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
ça cache plutôt de la peur, là,
ça cache plutôt de la peur. Donc faudrait réussir à l'apprivoiser. Et j'irai jusqu'à dire que même quand on veut pas faire l'amour avant le mariage, on peut très bien se faire beaucoup de câlins, parlez-lui de câlins, de bisous, etc., mais qui peuvent même être assez sexuel ou presque sexuel, et on peut avoir du plaisir ensemble même sans avoir des relations sexuelles.
Merci beaucoup Dieudonné. On a Ibrahim qui nous appelle de Bamako au Mali. Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ibrahim.
Bonjour docteur et bonjour à tous les auteurs de RFI. Moi j'ai une question concernant l'écoulement du liquide prostatique lorsqu'on est en érection ou lorsque on a des sentiments et des trucs à l'état envers d'autres personnes, une fille ou un trucs comme ça. Bon, je ne sais pas, ce liquide prostatique-là qui s'écoule comme si c'était de la salive ou bien quand on a une grippe ou fait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est dû à une maladie ou pas, je ne sais pas. Et moi, je m'inquiète, je ne sais pas si c'est dû à une faiblesse ou quoi. J'ai fait des analyses et l'analyse du liquide prostatique n'a rien montré comme anomalie. Et on m'a même donné comme solution, c'est le mariage, parce que je m'abstiens là jusqu'à présent, j'attends jusqu'au mariage. Bon, je ne sais pas si cela va affecter ma vie amoureuse quand je vais me marier ou pas.
Alors, docteur Catherine Solano.
Alors, ce que vous décrivez, c'est pas du tout du liquide prostatique, c'est ce qu'on appelle le liquide pré-éjaculatoire. Tous les hommes fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une érection, il y a un liquide qui sort du pénis, qu'on appelle le fluide des glandes de Cooper. C'est fabriqué pas du tout par la prostate, mais par des glandes qui sont près de la sortie où elles sortent, quoi, où le liquide sort. Et donc, c'est un liquide qui coule, ce qui c'est pas du tout comme le sperme, ça coule doucement. Et tous les hommes ont ça quand ils ont une érection. Donc, c'est pas du tout une maladie, c'est pas du tout du liquide prostatique, hein. Le liquide prostatique, c'est un liquide qui est dans le sperme. Donc, tout le monde a ça, c'est pas dû au fait que vous n'ayez pas de rapport sexuel et que vous attendez le mariage. Quand vous serez marié, vous aurez encore ça. Quand un homme de 80 ans a encore ça, un homme marié a ça, un homme divorcé a ça, un homme célibataire a ça, tout le monde a ça. Il n'y a pas besoin de faire de bilan, vous êtes normal. Alors, il faut savoir quand même que ce liquide, il y a des hommes qui en ont un tout petit peu et d'autres une grande quantité. Ça dépend un peu de la taille des glandes. Il y a des hommes qui ont les glandes plus développé que d'autres et donc qui fabrique plus de liquide, mais c'est tout à fait normal, c'est pas du tout une maladie.
Est-ce
et
que vous,
si vous vous mariez, ça changera rien du tout.
Ibrahim, est-ce que vous êtes rassuré?
Oui, je suis en Suède.
Bon. Mais en fait, oui, allez-y, vous avez encore une question.
En fait, il y a un autre petit problème. Par exemple, je suis constamment constipé et quand je vais au sel, j'ai remarqué que quand je me concentre, je pousse fort, je sens, je vois qu'il y a le sperme qui sort. Et je ne sais pas si c'est ça, si c'est une maladie ou pas.
Bah, a priori, si vous poussez, ce qui peut sortir, c'est ce qui reste dans votre urètre. C'est-à-dire que si vous avez une éjaculation avant, par exemple, je sais pas, par la masturbation ou autre, ça peut sortir, mais autrement, il n'y a pas de raison parce que si vous voulez, il y a un verrou qui bloque les choses normalement.
Indépendamment l'une de l'autre. Bon courage en tout cas, Ibrahim, et merci pour votre question. On a au téléphone Boubacar qui nous appelle de Conakry en Guinée. Boubacar, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, Boubacar.
Claire, mon histoire est que moi, je n'arrive pas à tenir des rapports sexuels avec une fille pour qui je n'ai pas de sentiments. Je n'arrive pas à mettre le sexe avant les sentiments. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est une faiblesse ou si c'est une maladie.
Alors, docteur Catherine Solano.
Alors, votre question, elle est très intéressante parce que moi, j'ai des patients qui viennent, je pense à un jeune homme comme ça, qui est venu me voir en consultation pour ça. Il me disait, moi, j'arrive pas à faire l'amour avec quelqu'un si je suis pas amoureux, alors que mes copains, eux, ils ont plein d'aventures, ils s'en fichent de la fille avec qui ils couchent, et moi, je voudrais bien faire comme tout le monde. Mais la vérité, c'est que vous êtes tout à fait normal, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme vous. Parce que les hommes, c'est pas des machines sexuelles, si vous voulez. Il y a besoin de sentiments et d'émotions. Pour certains arrivent à séparer les deux, mais pas tout le monde. Et donc c'est tout à fait normal. Et puis je dis souvent même plus que ça, c'est que quand on fonctionne comme ça, il faut pas chercher à se forcer. Parce que si votre cerveau fonctionne comme ça, si votre corps fonctionne comme ça, souvent c'est une protection. C'est que si vous vous forciez à faire l'amour avec quelqu'un alors que vous l'aimez pas et que vous n'avez pas envie. Soit ça marcherait pas, soit ça vous ferait du mal, vous vous sentiriez vraiment pas bien. D'ailleurs, un de mes patients, c'est ce qui lui est arrivé, il me dit, je me sentais vraiment nulle, cette fille-là, finalement, elle est tombée amoureuse de moi, moi je l'étais pas, et je me suis dit, je suis vraiment nulle, c'est pas sympa de faire des choses comme ça. Ça veut dire que vous avez du cœur, et ben, il faut trouver quelqu'un que vous aimez. Et ça se passera bien.
Donc vous êtes tout à fait normal, Boubacar, c'est pas une maladie. Merci beaucoup de nous avoir appelés.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, le docteur Catherine Solano répond à toutes vos questions sur les liens entre sexualité et sentiments. On a Lucas qui nous appelle de Kay au Mali. Lucas, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Lucas.
J'ai 19 ans. Autrefois, je faisais des rapports sexuels sans difficulté. Mais je suis tombé très amoureux. Et quand je voulais faire l'amour avec mon ami, mon sexe, monsieur, je ne lève pas. Je suis là pourtant quand j'étais. Quand je ne suis plus avec elle.
Et vous vous demandez ce qui se passe. Ouais. Alors je vais me permettre de répéter parce que la ligne était pas très bonne. Vous avez eu des rapports sexuels sans difficulté, mais vous êtes un jour tombé très amoureux d'une femme et quand vous avez voulu faire l'amour avec elle, vous dites, je reprends vos propres termes, hein, votre sexe n'a pas voulu se soulever. Et quand vous n'êtes pas avec elle, ça redevient normal. Docteur Catherine Solano, les difficultés d'érection quand on est amoureux, au contraire.
Oui, alors ça c'est important s'il y a des femmes qui nous écoutent surtout, c'est que quand un homme est très amoureux, il a encore plus peur de faire l'amour, c'est-à-dire qu'il se dit si ça marche pas, elle va me quitter, donc j'ai très très peur. Et malheureusement, la peur, ça a tendance à bloquer l'érection. Donc, souvent, quand un homme est très amoureux, bah, il a plus de difficultés, et il y a des femmes qui se disent, bah, s'il a pas d'érection, c'est que je lui plais pas, il me trouve trop ceci, il trouve que j'ai des trop petits seins, des trop gros, etc. Je lui plais pas, donc j'arrête. Alors que c'est souvent exactement le contraire. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même très rare qu'un homme se retrouve au lit avec une femme dont il n'a pas envie. Donc, il est pas, s'il en a pas envie, il essaye pas. Donc, la plupart du temps, quand il y a une panne, c'est plutôt qu'un homme est trop amoureux et que c'est trop important pour lui, l'enjeu est trop grand. Donc, c'est vraiment important qu'une femme sache avoir de l'empathie et se dise, mais j'ai de la chance d'être avec un homme qui m'aime. Et pas qu'elle se dise, j'ai pas de chance, il a une panne. Et donc, en général, quand une femme est attentive et qu'elle lui dit, mais c'est pas grave, ça va finir par venir, on s'en fiche, on s'aime. pas, il se détend, il se dit elle-même, même si j'ai une panne, donc tout va bien, et puis ça revient tout seul, spontanément, pas des fois la deuxième fois, mais en quelques fois, ça revient très bien. Donc je me rappelle comme ça une dame âgée qui m'a dit, moi je me suis mariée, j'avais jamais fait l'amour avant mon mariage, il a fallu 11 jours pour qu'on arrive à faire l'amour parce que mon mari avait une panne, et elle dit, moi je savais pas quoi faire, je connaissais rien, j'étais débutante, et ben ça a fini par marcher, et depuis il a jamais eu de problème, et c'était une dame qui avait plus de 70 ans, vous voyez. Donc
c'est
vraiment,
ça, des problèmes qui vont être tout à fait passagers.
Mais c'est passager, et il faut vraiment, ce qui serait important de la part d'un homme, c'est de lui dire, tu sais, ça marche pas parce que je suis très amoureux de toi, j'ai peur de pas bien faire, qu'elle se rende compte que c'est la charge émotionnelle qui joue et pas du tout le manque de désir, quoi.
Et c'est ça aussi qu'il faut que Lucas comprenne, c'est la charge émotionnelle qui provoque ça.
Voilà, c'est que en fait on a dans des compétitions émotionnelles, c'est-à-dire si la peur est plus forte que le désir, et ben il y a la panne, elle s'arrête même si on a beaucoup de désir. Et la peur, elle est d'autant plus forte qu'on aime beaucoup la personne.
Merci Lucas et bon courage à vous. On a Cynthia qui nous appelle de Lomé au Togo. Cynthia, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Cynthia.
Moi, j'ai un souci. J'ai l'impression que mon mari, c'est lui qui veut tout le temps de moi. Du coup, j'arrive jamais à manifester mon envie. J'ai même plus envie. Ça fait 5 ans qu'on est mariés et voilà 3 ans que ça dure. Je peux pas venir. Oui, j'ai envie de toi. Viens vers moi. C'est tout le temps lui qui vient et il se plaint. Et là, je me demande, est-ce que je peux avoir encore envie et qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'y prendre?
Alors merci beaucoup pour votre question, parce que c'est une question qui est très 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 fréquente, parce que forcément dans les couples on n'a jamais forcément envie exactement pareil. Alors nous, ce qu'on fait en pratique, très basique, si vous venez me voir en consultation, je vais vous dire, vous allez dire, c'est chacun notre semaine. Pendant une semaine, c'est toi qui décides quand on fait l'amour. Et la semaine après, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie, on le fait pas. Et dans ces cas-là, très souvent, une femme dans votre cas, si c'est votre semaine maintenant, eh ben, vous allez attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et vous dire le 6e ou 7e jour, ah, ça y est, j'ai un peu envie. Parce que il faut effectivement, le désir a besoin de liberté et d'espace, et que si l'autre vous harcèle, bah, vous n'avez jamais envie, c'est tout à fait normal de réagir comme ça. Donc, dites à votre mari, on fait chacun notre semaine. Deuxième chose, c'est que souvent quand un homme est en demande constante de sexualité, c'est parce qu'il se sent pas suffisamment aimé. Et donc le sexe, c'est une manière de se sentir aimé. Donc il faudrait trouver d'autres manières de lui montrer que vous l'aimez, qui lui permettent d'avoir un désir un petit peu moins explosif tout le temps. Lui demander qu'est-ce qui te fait du bien, est-ce que ça serait un massage, est-ce que c'est que je te fasse un bon petit plat, est-ce que c'est, j'en sais rien, qu'on se promène main dans la main, pour qu'il sente que vous comptez pour lui et pas que vous prenez de la distance parce qu'il vous harcèle. Parce que plus vous prenez de la distance, plus il sent la peur de pas être aimé, plus il a envie de faire l'amour et plus vous en avez ras-le-bol, quoi.
Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette question. Parce que pour moi, ça rejoint la première question qu'on a eue en tout début d'émission. Mm-hmm. Et c'était Chris, au contraire, qui se plaignait d'une trop forte demande sexuelle de ses femmes. Donc, c'est très intéressant que ça peut être dans un sens ou dans un autre. Mais à chaque fois, vous avez dit, l'autre peut simplement exprimer une impression de pas être aimé. Voilà. Et pas forcément d'envie de relation sexuelle.
Exactement. Quelqu'un qui a une demande sexuelle exagérée, constante, très souvent, en fait, c'est pas une personne qui a besoin de sexe, c'est une personne qui sait pas comment aller chercher de l'amour. Et donc, d'abord, il faudrait que lui-même ou elle-même s'en rende compte et se dise, mais l'autre a d'autres manières de montrer qu'il ou elle-même. Et aussi de la personne qui est harcelée, de dire, mais comment je peux te montrer que je t'aime autrement, pour qu'au lieu d'avoir qu'un seul canal de communication, on en ait plusieurs, et du coup, la relation sera beaucoup plus équilibrée.
Bon, merci beaucoup, Cynthia, pour votre question. Puis je suis obligée de remarquer que je trouve qu'on a eu très très peu de femmes aujourd'hui. Il faudrait qu'elles osent aussi nous appeler.
C'est pourquoi on remercie beaucoup Cynthia d'avoir posé une question.
C'est pour ça qu'on remercie particulièrement Cynthia. Il faudrait quand même qu'il y ait d'autres femmes qui nous appellent. On a Bachir qui nous appelle de Niamey au Niger. Bachir, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Bachir.
Justement, le thème, c'est sexualité et sentiments. J'aimerais tout simplement dire que le sexe et le sentiment vont de pair. On ne doit pas dissocier les deux. Pour moi, le point de départ d'une relation sérieuse d'amour, c'est au moment où les deux partenaires décident librement, sans contrainte, de passer à l'acte. Vous voyez, donc il y a quelque chose pour moi dans le rapport sexuel, quelque chose que je ne sais pas comment le nommer. Mais cette chose-là, on ne peut ni l'exprimer à travers le langage, ni à travers le regard ou quelque chose comme ça. Donc c'est seulement dans l'acte sexuel.
Vous êtes en train de dire que l'acte sexuel est indispensable à la relation amoureuse. Docteur Catherine Solano.
Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le sexe, c'est aussi de l'amour. C'est-à-dire que quand on fait l'amour avec quelqu'un, le mot « faire l'amour » est intéressant parce que ça crée de l'amour. Et c'est vrai. Mais il faut vraiment mettre un petit bémol, c'est pas toujours vrai. Il y a quand même des hommes qui violent des femmes et on peut pas dire que c'est du sentiment amoureux. Il y a des personnes qui dominent l'autre et qui ne lui donnent pas beaucoup d'amour en faisant l'amour, c'est plutôt, ou en ayant un rapport sexuel, c'est presque de la masturbation avec quelqu'un. Faut bien être conscient que c'est pas toujours la vérité. Et d'autre part, quand vous dites qu'il n'y a que dans la sexualité qu'on peut vraiment exprimer l'amour, c'est pas vrai non plus. Il y a beaucoup d'autres manières d'exprimer de l'amour. Et on n'a pas tous la même façon de s'organiser à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que le couple idéal, c'est un couple qui a la même façon de fonctionner. Hein. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement, il y a peut-être un message important à passer, c'est qu'il y a des femmes qui disent « mon mari me harcèle », par exemple, ou « veut trop souvent faire l'amour ». J'ai l'impression d'être un objet sexuel pour lui. Non, la plupart du temps, s'il veut faire l'amour, c'est pour montrer qu'il vous aime quand même.
Donc c'est important de l'entendre. Merci Bachir. On a Sylvain qui nous appelle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Sylvain, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour docteur.
Bonjour, vous vous écoutez.
J'ai une préoccupation. Donc depuis que je suis homme, je m'accouple, bon, je suis marié il y a 20 ans. Si je m'accouple avec ma femme, par exemple, lundi, il faut attendre soit vendredi, samedi pour que j'ai encore le désir sexuel et que je le fasse bien. Mais dans le cas contraire, dans l'intervalle, j'ai le désir, mais le corps ne répond pas au désir. Alors, je me demandais est-ce que je suis normal. Il y a des hommes qui sont comme ça, est-ce que c'est une anomalie?
Docteur Catherine Solano, alors que répondre à Sylvain?
Il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que effectivement, après, quand un homme a eu un rapport sexuel et qu'il a éjaculé, il y a ce qu'on appelle une période réfractaire. C'est-à-dire, il y a un temps pendant lequel on ne peut pas avoir une deuxième érection. Et ce temps, il augmente avec l'âge, en général. Mais c'est vrai qu'en général, je sais plus quel âge vous avez dit, vous êtes marié depuis 20 ans. En général, c'est quand même plutôt moins longtemps que ça. Donc, peut-être que vous faites partie des hommes qui ont besoin de temps pour recharger les batteries physiquement. L'avantage de ces hommes-là, c'est qu'en général, ils n'ont pas d'éjaculation précoce. Ça peut vous paraître banal, mais ceux qui ont ce problème... La deuxième chose, c'est que ça peut venir aussi du fait que quand vous faites l'amour, vous êtes comblé. Et aussi que dans votre couple, il y a une belle relation d'amour et que du coup, vous ne ressentez pas le besoin tout le temps de faire l'amour comme un homme qui vient de faire l'amour, qui a encore envie tout de suite parce qu'en fait, il a une insatisfaction affective qui fait... Donc, si vous comblez mutuellement, bah vous avez moins souvent envie et ça veut, et c'est pas du tout le signe que c'est un couple qui fonctionne pas. Parfois, au contraire, c'est signe que ça fonctionne bien.
Donc, pas d'inquiétude pour Sylvain. Merci beaucoup de nous avoir appelé. On va prendre une dernière question avec Edouard qui nous appelle de Niamey au Niger. Edouard, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Edouard.
Bonjour, Claire. Bonjour à Catherine Solano.
Bonjour à vous.
Oui, avant, j'avais beaucoup de petites amies, des filles, mais il y avait une que j'aimais plus particulièrement, avec qui je me comptais m'engager après mes études. Nous étions très soudés, mais ses parents lui ont imposé un mariage forcé. Depuis, j'ai resté abstinent car je n'arrivais plus à avoir des relations avec d'autres filles. Alors, ma question est...
Vous allez savoir. La ligne téléphonique est en train de se dégrader, donc je me permets juste de répéter votre question. Edouard a eu un grand amour, mais finalement il n'a pas pu se marier avec elle. On lui a imposé à sa compagne un autre mariage et depuis il est resté sans partenaire. Et il veut savoir si ça peut avoir des effets secondaires sur sa vie sexuelle à venir.
Eh ben non, ça va redémarrer quand il rencontrera quelqu'un avec qui le courant passera. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une rupture douloureuse, ça peut prendre des fois un an ou deux avant qu'on ait vraiment envie de rencontrer rencontrer quelqu'un d'autre. C'est normal, c'est une espèce de deuil de la relation qu'on doit faire. On souffre beaucoup. Et du coup, nos récepteurs d'amour sont toujours occupés par cette personne, même si on sait qu'elle n'est pas disponible. Bon, parce qu'elle est mariée ou parce qu'elle veut plus de vous. Il y a plusieurs solutions possibles. Et du coup, il faut que nos récepteurs d'amour redeviennent disponibles.
Merci beaucoup. On va prendre quand même une dernière question. Je crois qu'on a Rodolphe qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Rodolphe, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Rodolphe.
Oui, en fait, j'ai un souci. Allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, bon, en fait, je voulais m'engager avec une fille, mais sauf que j'ai un problème à son niveau. La fille, elle a incisé. Bon, quand on est ensemble, quand j'essaie de faire un peu de petites caresses, elle se dit que non, elle ne ressent rien de ces histoires-là, donc... À chaque fois, bon, j'essaie de demander conseil, je n'en trouve pas.
Alors, docteur Catherine Solano, effectivement, Rodolphe a une amie qui a été excisée et qui ne ressent pas de plaisir. Comment faire ?
Ben, c'est pas forcément évident. Déjà, il faudrait la faire examiner, voir s'il y a des cicatrices ou il y a des choses qui peuvent lui faire mal. Et puis,
peut y avoir des cicatrices douloureuses.
Oui, tout à fait. Et puis, d'autre part, il faut savoir qu'une femme excisée, au niveau du vagin, à l'intérieur du vagin, elle est tout à fait normale et donc elle peut avoir du plaisir à ce niveau-là. Et autrement, au niveau du clitoris, c'est qu'il faut essayer de trouver les racines du clitoris. C'est-à-dire, contre l'os du pubis, en appuyant assez fort, on trouve des endroits de sensibilité qui correspondent aux racines du clitoris, en fait.
Parce qu'effectivement, ce que vous nous aviez déjà dit, c'est que le clitoris, en fait, il remonte, il est bien plus long que la partie qui sort.
Voilà, il y a à peu près il y a une toute petite zone qui sort, il y a 11 cm de racine, donc et qui est capable de provoquer du plaisir, donc il y a quand même des capacités au plaisir.
D'autres possibilités. Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette question et bon courage à vous. Docteur Catherine Solano, merci. Vous reviendrez le mois prochain pour répondre aussi aux questions des auditeurs et on vous retrouve comme tous les jeudis pour la chronique sexualité. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé.